Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir sur La Route Inconnue, magazine de Radio Rancière entièrement dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. La Route Inconnue est réalisée en partenariat avec la revue de poésie Décharge. En seconde partie d'émission, vous pourrez d'ailleurs entendre la voix de notre ami Claude Verset, pilier de la revue Décharge. Vous pourrez aussi savourer les chroniques de Cécile Guivarch et de Patrick Jockel. En attendant, notre invité du jour, il est né en 1974 à Bayeux, en Normandie, où il réside toujours. C'est un poète, bien entendu. Il a déjà publié une dizaine de recueils, sans compter de nombreuses contributions, dans des revues aussi fréquentables que Décharge, Large, Verso, Friche ou Kern, la revue de notre ami Patrick Jockel. Son nom, Morgan Rier, son dernier ouvrage, Du soleil sur la pente, publié aux éditions Voix tissée. Morgan, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors avant de parler de ce livre, j'aimerais en apprendre encore un peu sur vous, sur votre enfance notamment. Je ne sais plus qui a dit qu'on ne guérissait jamais de son enfance. Alors quel enfant étiez-vous ? Est-ce que vous étiez joueur, sportif, ou plutôt solitaire et lecteur déjà, peut-être ?
Non, j'étais plutôt quelqu'un d'assez solitaire.
Ouais.
Je lisais pas, si, je lisais, comme tous les enfants, je pense, des bandes dessinées. J'étais plutôt branché... super-héros, voilà. <quoi. rire> Mais je m'intéressais pas spécialement à la littérature telle que tu pourrais l'entendre.
Ouais.
Voilà. Donc très solitaire, mais bon, j'avais quand même des amis, mais j'avais peut-être des difficultés des fois à aller vers les autres.
Ouais.
Voilà.
Vous suffisiez à vous-même, enfin, vous aviez votre propre univers déjà, peut-être.
Oui, je pense que je. Besoin de me plonger dans la rêverie pour mieux appréhender le monde.
Ouais.
Voilà.
Est-ce que vous avez le sentiment de continuer votre enfance à travers la poésie aujourd'hui, d'une certaine manière ?
Certainement, parce que en fait, dans beaucoup de mes poèmes, de mes textes, on retrouve souvent l'enfance en arrière-fond.
Oui.
En arrière-fond, il y a toujours cette part d'enfance qui ressurgit à tout moment dans les poèmes.
Oui.
Mais que ça soit lorsque j'évoque ma propre enfance, mais celle aussi de mes enfants.
Oui.
Je crois que quand je parle d'eux, je me revois enfant, de temps en temps.
Oui. Je repense, en vous lisant, je repensais à ce vers de Jean Follin. Dans les champs de son enfance éternelle, le poète se promène qui ne veut rien oublier. Et moi, j'ai le sentiment que vous aussi, vous faites partie de ces poètes qui ne veulent rien oublier de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire que la matière première de votre poésie, c'est votre existence et celle de vos proches, bien sûr.
Oui, complètement. J'essaye un petit peu de capturer, de saisir le temps qui passe ou qui a parfois du mal à passer, si on peut dire. Avec ses joies, ses bonheurs simples, partagés avec mes proches, voilà. Et c'est un peu ça.
Ouais. Ouais. C'est un peu cette poésie qu'on appelle souvent, à tort ou à raison d'ailleurs, la poésie du quotidien. Je pense un peu dans la manière d'un François de Cornières, par exemple, qui est un autre Normand d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez lu ? Il a fait partie des gens qui ont compté.
Je l'ai découvert assez tardivement. Et là, je me replonge un peu dans ses livres. Là, dernièrement, j'ai lu Ça tient à quoi ?
Ouais.
Ça de oui. Et puis c'est vrai que je trouve il y a des affinités, quoi.
Ouais.
On va dire peut-être cette envie de conserver ces instants, les instants fugaces.
Ouais.
Bon, peut-être que moi, bon, je sais pas, hein, c'est sans prétention, mais moi, j'essaie d'y apporter des fois une touche d'humour.
Ouais.
Voilà. Enfin, mais oui, ça fait partie des gens qui me touchent. Hein. Là, dernièrement, je sais que j'ai lu Raymond Carver aussi.
Oui, bien sûr. Ouais.
Dans sa poésie, en fait, qui est plus proche on est plus proche d'une poésie narrative. Hein, voilà.
Ouais.
Et c'est vrai que je tends de plus en plus vers ça. En fait, je m'éloigne vers, si on peut dire, de la poésie, quoi.
Ouais.
je pense aussi là, un peu à Georges Perros aussi.
Georges Perros, bien sûr. Que vous citez d'ailleurs au tout début de votre livre.
Oui, 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 parce que en plus, c'est un petit peu sur les conseils de Jean-Claude Toussaint, l'ami Jean-Claude Toussaint, on en parlait ensemble à Durcé, il m'avait dit, t'as lu les papiers collés de Perros? J'ai dit, non, j'ai pas lu ça. Et finalement, j'ai commencé à lire. J'ai dû lire les deux premiers volumes. Ouais. Il me reste un volume. Autrement, les poèmes bleus, Une vie ordinaire, oui, ça y est, ça fait partie de mon univers.
Ouais. Est-ce que, comment et quand la poésie a-t-elle débarqué dans votre vie?
C'est à l'adolescence. Voilà.
À l'adolescence.
16-17 ans. Et c'est grâce, on va dire, d'une certaine façon, la rencontre d'un professeur de français qui, là, m'a fait découvrir, Blaise Cendrars.
Ah.
Voilà, je voyais une poésie que je n'avais pas rencontrée auparavant. Si, bien sûr, comme tout élève, j'avais lu la poésie plus classique du Bellay, de Ronsard, mais sans que ça me donne envie d'aller plus loin sur le chemin de la poésie.
Ouais. Ça a été un choc, Cendrars.
Oui, parce que lui, pareil, il captait des instants. C'était une poésie sans fioritures, simple, qui, moi, me parlait.
Ouais.
Et moi, je tends, en fait, de plus en plus à ça. Je suis plutôt un adepte de la clarté, de la lisibilité de l'écriture.
La ligne claire, comme on dit en bande dessinée.
Oui, oui, moi, c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal, par exemple, avec les choses trop hermétiques, qui se donnent l'air profond, mais qui ne le sont pas toujours, puisque plus que ça, quoi, si on décortique bien. Voilà.
Alors, vos premiers poèmes datent de quand? Vous avez découvert, Cendrars à l'adolescence, et vous êtes mis tout de suite à écrire des poèmes, où il a fallu du temps pour que ça se décante?
Non, ça s'est fait. Non seulement il y a eu la rencontre de ce prof, là, qui a été un petit peu un déclencheur, quoi, enfin. Et aussi un ami là qui est décédé depuis, mais avec qui j'ai commencé à écrire, en fait. On écrivait ensemble, c'était un petit peu une sorte de compétition. Voilà, on écrivait des fois des poèmes ensemble, séparément, et voilà.
Ouais.
Lui aussi qui a participé à cette découverte de la poésie.
Ouais. Et vos premiers poèmes ressemblaient à ceux que vous écrivez aujourd'hui?
Pour certains, oui, j'en ai conservé quelques-uns, j'ai beaucoup jeté en fait. J'ai des classeurs, plein de classeurs, mais j'ai replongé dernièrement dans tout ça et il y a des choses qui sont proches d'aujourd'hui, moi avec plus de maladresse, mais il y a toujours les mêmes thèmes.
Le même désir d'investir la vie ordinaire, pour reprendre le terme de Perros, en fait.
Oui, complètement, c'est ça, ouais.
Alors, il y a un livre qui a, en tout cas, je le pense, beaucoup compté. C'est peut-être Du côté de Vézani, qui est paru en 2012 chez Gros Texte. Et c'est un livre où vous parlez de votre travail en milieu psychiatrique. J'ai l'impression que c'est un livre important, non?
Oui, parce que voilà, c'était je l'ai écrit quand j'ai découvert vraiment la psychiatrie avec un premier regard, donc on se prend les choses en pleine figure, donc avec ma sensibilité, puis j'ai voulu témoigner de cet univers-là. Ça a été une étape importante, puisque j'ai appris à prendre un peu plus de recul par rapport à ce que j'écrivais, et puis à être un peu plus dans le décalage, dans la légèreté.
Ouais.
Tout en abordant des thèmes, un thème grave, quoi. Enfin,
ouais.
Voilà.
Enfin, c'était nécessaire de faire léger sur des sujets très graves, évidemment, celui-ci.
Parce que je ne voulais pas faire quelque chose de plombant, larmoyant.
Ouais.
Voilà. Voilà, puis je pense qu'aussi il y a eu la rencontre de Jean-Claude Touzel qui a beaucoup apporté, quoi.
Alors, parlez-nous de cette rencontre et de cette amitié avec Jean-Claude Touzel. Vous l'avez rencontré quand?
On s'est rencontré de manière virtuelle au départ. C'est-à-dire que je suis allé visiter, je me souviens, son blog. Et je puis voilà, j'ai mis des commentaires. Après, il est venu voir ce que j'écrivais à l'époque. Et ça s'est fait comme ça. Puis, de fil en aiguille, il m'a invité, quoi.
Ouais.
Lors de la publication d'un de mes premiers recueils.
Ouais.
Voilà, ça s'est fait comme ça. Il a eu, je crois, on s'est retrouvés.
Voilà. Et vous avez reçu le prix Jean-Claude Touzeil l'an dernier ou il y a deux ans, je ne sais plus.
Il y a deux ans, ça.
Ouais. C'est chouette, quoi, ça.
Ouais, et puis là, c'était particulier parce que c'est un prix qui a été décerné, enfin, qui m'a été attribué par des enfants.
Ouais.
On n'est pas du tout dans le copinage ou le renvoi d'ascenseur, là. C'est les enfants qui parlent avec leur cœur. Et alors que c'était pas spécialement un recueil qui était, je l'ai pas écrit pour des enfants.
Oui,
quoi.
Oui, non, votre poésie est pas une poésie jeunesse, hein. Ça, il faut le dire tout de suite parce que, bien sûr que non, hein. Ouais.
Oui, oui. Et puis ça leur a parlé parce qu'il y avait, bien sûr, il y avait aussi des images dans le recueil de Matt Malen qui leur ont plu. Et puis, moi, le texte qui leur parlait, qui ont trouvé un peu étrange, mais ça leur parlait.
Alors parlons de votre dernier livre, Du soleil sur la pente, publié aux éditions Voix Tissée. J'en lirai quelques extraits tout à l'heure à nos auditeurs. Alors une fois encore, ce livre parle de votre vie, femme, enfant, ami, un inconnu qui passe, ou votre chat qui miaule, votre chat Berlioz. Ça, c'est un de mes poèmes préférés du recueil. Je le lirai tout à l'heure à nos auditeurs. Il est extrêmement beau ce recueil sur le chat Berlioz. Quel drôle de nom pour un chat.
Oui, complètement. C'est un nom qu'on a choisi avec les enfants. Quoi. Je pense qu'il y a non seulement le souvenir des Aristochats, je pense que c'est ça.
Ouais.
Et puis, bien sûr, le musicien. Voilà.
Ouais. Alors, j'en reviens encore à Jean Follin qui disait... Dans un de ces textes, tout fait événement pour qui sait frémir. Et apparemment, vous frémissez au moindre souffle, parce que ce qui déclenche un poème, parfois, c'est vraiment trois fois rien, parfois.
Hein. Oui, complètement. Ça peut être une vague impression. Parfois, c'est une impression étrange d'être souvent en décalage.
Ouais.
À la fois présent au monde, au travers des mots, quoi. Et en retrait de celui-ci, quoi. Et puis, en fait, comme un guetteur, quoi,
ouais.
qui attendrait dans un coin du temps que surgisse le poème.
Ouais.
Voilà. Et puis voilà, oui, tout fait poème, hein, tout, on peut parler de tout et n'importe quoi.
Ouais.
Après, c'est toujours une question d'angle.
Ouais.
L'angle d'essayer de les diversifier, quoi, parce qu'on peut parler à longueur de poème même des mêmes choses, mais trouver à chaque fois un angle qui soit singulier,
ouais.
On va dire. Voilà.
Est-ce qui vous amène à parler parfois d'un centre commercial? On est à l'abri nulle part d'une crise de poésie. Hein.
Non, on n'est pas. Oui, mais voilà, c'est des impressions comme ça,
ouais.
Dans un centre, oui, dans un centre commercial, une impression, un moment de solitude et d'être submergé par un univers assez froid. Quoi.
Ouais. Alors, c'est très intéressant pour le lecteur parce qu'il va y retrouver lui-même. Évidemment, sa propre vie et lui donner envie aussi de pleinement vivre une vie qui lui paraissait peut-être pas intéressante finalement, mais qui l'est.
Ouais, j'aurais peut-être une formule comme ça, ce serait de dire que si on peut dire, cherche une part d'extraordinaire.
Ouais.
Je cherche la part d'extraordinaire que peut receler l'ordinaire des jours.
Oui.
Enfin, c'est ça. J'essaye de rendre les choses parfois graves, un peu légères.
Oui.
Par le biais toujours de l'humour, quoi.
Oui.
Voilà.
Alors je voudrais qu'on parle quelques mots de votre travail de poète. Comment écrivez-vous là? Vous êtes dans un centre commercial, il se passe un truc. Comment vous faites? Vous avez toujours un carnet à portée de main pour noter?
Pas toujours. Je pense que c'est. J'essaye de conserver ça dans ma tête.
Ouais.
Ça peut être sous forme de rumination, quoi, de quelques mots, de quelques. Et puis ça prend forme petit à petit ou pas du tout.
Ouais.
C'est parfois immédiat ou alors ça peut venir des jours après avoir vécu l'événement en question, quoi.
Ouais. Voilà. Et vous retravaillez beaucoup vos poèmes le soir, comme ça, sous la lampe, comment vous faites ?
Bah, c'est vraiment aléatoire, tout
ouais.
ça. Là, dans le recueil Soleil sur la pente, bon, il y a des poèmes qui ont été écrits, on va dire, sur une période de 2-3 ans, et puis j'ai quand même sauvé des poèmes plus anciens qui m'ont semblé coller à l'univers.
Ouais.
Je les ai retravaillés, donc voilà. Parfois, je retravaille quand même les textes, j'essaye de les laguer, enfin. Mais voilà, quoi. Il y a toujours quand même une base, et puis voilà, je reviens, je demande conseil aussi, parfois.
Ouais.
Alors que avant de publier Du Soleil sur la pente, j'ai demandé conseil à quelques amis écrivains pour avoir un avis, pour savoir ce qui tenait ou ce qui tenait pas.
Ouais.
Voilà. Aussi un besoin. J'ai besoin des fois de ce regard des autres.
Un regard extérieur, bien évidemment.
Ouais.
Ouais. Morgane, merci. Merci beaucoup pour ce temps passé en notre compagnie. Et bah, ma foi, avant d'entamer la lecture de vos poèmes, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter une chanson extraite du dernier album d'Alain Souchon. Est-ce que vous aimez Alain Souchon, tiens, Morgane ?
Ah oui, j'aime bien.
Ouais.
J'aime bien sa mélancolie, son univers.
Ouais.
Bah, je vous remercie, en tous les cas.
Merci, merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir quand la ville s'allume. Je regarde le soir et je fume. Je vois le cours de danse à côté de la piscine et les dames qui pensent dans leur cuisine. Elles pensent aux actrices dans les halls monumentaux, les brassés d'iris et les beaux manteaux. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On attend la nuit, on voit tout de là-haut. De mon belvédère, je regarde la France avec ses lumières, ses souffrances. Je vois au bord de l'heure une usine qu'on vend et des hommes qui pleurent devant. Plus loin les Anglis et Rouen derrière et le fleuve qui glisse dans la mer. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. Du canal, il y a des campeurs, des gens qui leur parlent et qu'ont peur. Un monsieur de dos à la découverte de l'Eldorado dans une poubelle verte. Fanion Bagnère, plaisir et souffrance, entre les barrières, passe le Tour de France. La gloire a des chemins durs et abrupts. Pour monter le machin, faut prendre des trucs. Moi et mon ennui, on va tout de là-haut. On voit tout de là-haut. Un terrain en pente, au-dessus de la ville, des vieux matelas, des plantes et des bidons d'huile. Je monte là-haut m'asseoir, quand la ville s'allume, je regarde le soir et je fume.
Un vrai petit bijou, un petit chef-d'œuvre, cette chanson Un terrain en pente, extrait du dernier album d'Alain Souchon. Là, je vais vous lire Du soleil sur la pente, enfin, en tout cas des extraits, le recueil de Morgane Rier qui vient de paraître aux éditions Voix tissée, collection C'est-à-dire. Je vais commencer par ce poème intitulé En passant. Avenue Prévert, Square, Lamartine, Vigny, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Des bribes de vers me reviennent, et un peu de tristesse à penser, en passant, que la plupart des gens qui ont construit et meublé là leur vie ne leur ont jamais, ou presque, où il y a des lustres, entrebâillé la porte. Marge. Là, replié sur ton livre d'heures anciennes, à voir défiler les saisons, les semaines, et à prendre à peine, en marge, en nuage, le train de vivre, le terreau, la page inconnue par les cornes. Las, comme endormi sous un arbre bruissant, fleuri. Mais on dirait qu'il va pleuvoir encore, t'en chante une voix cristalline. Acquiescement pour Olivier. Alors que nous courons, une parole entraînant l'autre, tu en viens à évoquer des tranches de vie, ce que nous ne rattraperons plus, ce qui nous brûle, étape après étape, et revient là, en coups de sang, dans nos cœurs, par petits tas de cendres. Pour toi comme pour moi, le plus âpre dans tout ça, c'est d'accepter ce train qu'impose le temps avec toutes ses gares, ses incendies de parcours, ses aiguillages humains au goût d'amitié ou d'amour parfois amer. De tout notre souffle, nous tranchons, en dépit d'un ciel pesant de pluie et de larmes, dans le vif des regrets, et repoussons impuissamment la fin, au gré des paysages traversés, d'images en nous. À courte vue, un chien, à vue d'œil plutôt vieux, semblant perdu, sans l'ombre d'un maître sur la plage en chaleur, ou bien chien qui serait suicidaire, cherchant falaise pour en finir, ou alors seulement l'image d'un homme en deuil d'horizon. Passé présent. Le cimetière, le collège de Jeanne non loin. D'un côté une parcelle ombreuse parsemée d'absence, de l'autre ce qui dans un frais élan sans frein rééquilibre l'enjeu. Des mots qui s'assemblent, s'articulent à la jointure du trouble. Distance. Très rarement je vais sur ta tombe. Une fleur parfois déposée au pied. Lorsque pris sans doute alors d'un peu comme du remords, je me décide enfin à passer le portail. Et parfois, là, au milieu de l'allée où tu reposes, en paix ou pas, j'observe cet arbre tout proche, majestueux, courbé selon le vent, qui appose, dirait-on, son ombre au silence qui fut, un jour de novembre, au bout de ton geste désespérément notre poids. C'est ne rien réveiller, laisser s'étirer l'instant, comme si le soleil ne devait pas se coucher, comme si les blessures anciennes pouvaient se refermer. Les baisers des enfants et ton sourire autour appuient ma déraison. Euphémisme, poème dédié à Eliot. Il fait une petite chaleur, vient-il de dire, comme s'il tenait à n'offenser ni le ciel, ni personne, à nous rassurer un peu sur les suites de l'entreprise. Bouchée franche des regards, sans périphrase autour des sandwichs, il fait bleu de sourire, ductile dans l'éclair de ce pique-nique, en bordure de pluie. Souffle. En vélo, tu files devant, les cheveux dans la mouvance rousse ou bétonnée des paysages. Moi, je cours comme je peux, après toi et des images proches, lointaines, comme pour élargir mon champ et en semer, chasser autant d'autres, loin derrière, ces montagnes que je me fais d'un rien. En roue douce, libre, des mots sinus dévalent nos langues. Par moments même, le sprint apaisant d'un sourire tient, tel un défi que tu me lances et que je m'empresse de tout mon souffle, amour, de relever. Pour que rien, encore un poème dédié à Eliot. Chaque jour sur le chemin, au retour de l'école, tu glanes ton lot de feuilles, brindilles, quelquefois aussi un bout de branche. Pendant un certain temps, ces petits trésors en rejoignent d'autres, ça et là dans le garage, puis, par nécessité ou autre, arrive le jour où, mais, chut, pour que rien ne s'écroule, et parce que bien assez vite, tu sauras les lire, mais silence. Elle, The Reaper. Il s'appelle Elle. Et il est Reaper aujourd'hui. On a fréquenté aujourd'hui les mêmes bancs qui étaient des chaises, les mêmes copains, les mêmes jeux à l'école primaire. Puis, de temps à autre, quand sa tournée passe dans le quartier, on se parle. Mais c'est rare. Le plus souvent, on échange quelques regards ou sourires qui néanmoins soulignent ce lien ténu qui perdure et nos rides. Pendant que lui ramasse les sacs avec son collègue, avant de repartir aussi sec, d'un bond sur son marchepied, tout en m'envoyant un salut franc. Malgré tout, comment dire ? On n'est jamais trop prudent. Méfiance, méfiance, par principe, à l'égard d'un Reaper, même s'il s'en prend à de vraies ordures. Talent divers. S'il est un domaine où je brille le plus souvent par mon absence d'implication durable, c'est bien le jardin et ses corolles et corollaires. Je veux dire par là que, sorti du lieu commun de quelques fleurs et plantes, et encore, c'est pour moi genre terrain vague. Pas foutu ne suis-je en effet d'un brin reconnaître et nommer tout ce que toi tu prends plaisir, plutôt naturel, à entretenir, faire pousser, grandir, et cela même pas piqué, ou une brindille à peine, de voir qu'à la moindre occasion, je rebrousse avec beaucoup de soin, poil, chemin buissonnier dans ma main. Piano. Clope au bec dans le jardin. Pensez petit oiseau sous le soleil qui frappe de tout son poids serein, sur mon ombre. Je savoure, par bouffée légère, cette touche fleurie et colorée de bon vent qu'apporte, en un clin d'aile, ses mains de fée verte au piano doux ce matin de vivre. Royaume, ce n'est pas rien, c'est à mourir. Plus courte que les jours, les jupes, les robes, saute dans l'œil éclairé du roi, tandis que mollement ma pensée les soulève.
Ce n'est pas rien, c'est à rougir. Un frisson d'éternité m'entr'ouvre les lèvres. Je décapsule donc cette image-là. Une bière plus loin, me voici pareil à l'arbre, là-bas. Libre et vassal. Et je terminerai avec ce petit poème que j'aime beaucoup. J'aime bien les autres aussi, bien sûr. Celui-ci, c'est mon petit préféré. Il s'intitule « Berlioz ». Le petit jour à peine, Berlioz miaule sous la fenêtre. Interrompu, là, en plein rêve, j'aurais bien de quoi lui en vouloir. Mais bon, comme un velours sur mon humeur et même comme à son habitude, jamais le délicat ne sonne pour mieux me prendre dans le sens du poil. Quant à ses contes de fêtes, tout pleins de haies, de murs, de chéneaux, de proies vaincues, peut-être aurai-je un peu plus tard la joie, le privilège de l'entendre au long cours d'une caresse me les ronronner par le menu. Très joli poème. Du soleil sur la pente, Morgane Rier, publié aux éditions Voix tissée, collection, c'est-à-dire. Voilà, je vous propose à présent de prendre une seconde pause musicale. On va encore écouter une chanson extraite du dernier album d'Alain Souchon. Après quoi, ce sera au tour de notre ami Claude Verset de vous faire part de sa chronique mensuelle.
Ronsard à la Bâme. Jamais l'homme avant qu'il meure ne demeure. Jamais l'homme avant qu'il meure ne demeure. Heureux parfaitement, heureux parfaitement. Car toujours avec la liesse, la tristesse. Car toujours avec la liesse, la tristesse. Se mêle secrètement, se mêle secrètement. La 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 la, la 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 la.
C'était Ronsard à l'Alabama, d'Alain Souchon, extrait donc de son tout dernier album. Claude Verset à présent, Claude Verset, notre ami de la revue Des Charges, poète, chroniqueur, critique, qui nous revient avec un coup de cœur, forcément.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Il est vivant. Il résiste. Il continue d'écrire du fond de sa cellule. C'est du poète palestinien Asraf Fayad, dont il sera aujourd'hui question. Et c'est le fidèle Abdelatif Lahabi qui nous donne de ses nouvelles à travers la traduction de l'arabe des derniers poèmes arrachés de la citadelle d'exil où Asraf Fayad est emprisonné. « Je vis des moments difficiles », nous confie-t-il dans le premier vers, qui sert judicieusement de titre à l'ensemble et qui donne la tonalité générale de l'ouvrage « Bilingue, de 80 pages, produit par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Souvenons-nous, il y a 5 ans, de la condamnation à mort d'Asraf Fayad par un tribunal saoudien. La principale pièce de l'accusation, pour blasphème, était un recueil de poèmes, instructions à l'intérieur, dont le public français avait pu prendre connaissance en 2015 grâce à Abdelatif Labi, dans une coédition Temps des cerises, Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. L'indignation soulevée par cette affaire à travers le monde, la mobilisation qui s'en suivit, conduisirent le pouvoir saoudien à commuer la peine capitale en 8 ans de prison assortie de 800 coups de bâton. Un soulagement à peine, un répit dans le feuilleton de cauchemar, commente Abdelatif Labi dans sa préface. De ce cauchemar, Asraf Fayad donne une idée en évoquant dans ses vers l'espèce de routine devenue de plus en plus affreuse avec le temps, à laquelle il est soumis. Un poème. Je suis cerné par les soldats et leurs uniformes aux couleurs miteuses. Je suis cerné par les règlements, les régimes et les législations. Je suis cerné par la volonté de puissance dont les êtres humains ne parviennent à se débarrasser. Ma solitude m'assiège. Ma solitude m'étouffe. On partage la douleur du prisonnier de n'être qu'un corps couronné d'une touffe de cheveux, et son cafard à la pensée de ses poèmes qui n'ont pas été publiés, de ses films qu'il n'a pas commencé à fabriquer, ses doutes d'humains pitoyables, ses insomnies. Mon sommeil est aussi fantasque qu'une adolescente fraîchement amoureuse. Citation. Et son chagrin à la mort de son père. Je ne lui ai pas fait mes adieux comme il le fallait. Je n'ai pas été affligé comme il le fallait. Malgré tout, on ne se débarrassera pas facilement de sa présence, même lointaine. Il est persuadé, ce jour du moins où il écrivit le poème, que, je vais vous lire à la suite le poème en intégralité, persuadé, disais-je, que le souvenir et peut-être le remords le maintiendra dans nos pensées. Poème. Ne me cherche pas. Je serai présent dans chaque gorgée de café, dans le moment de détente où tu as pris l'habitude de nettoyer ta peau, dans ton envie de rire ou de pleurer, de te jeter dans les bras de quelqu'un quand tu ne peux pas résister à l'insomnie que je ne connais que trop. Je serai présent quand ton portable restera muet au cours de tes longues heures de sommeil, quand tu accéderas à l'évanouissement de l'écriture et que l'envie de parler te passera, quand tu regarderas un film sans te soucier de sa valeur artistique, quand tu chatouilleras la terre de tes pieds en marchant, quand tu écouteras notre chanson commune, celle au sujet de laquelle nous ne nous sommes pas encore accordés. Plus tard, preuve surmontée, car il surmontera cette terrible épreuve qui en doute, Asraf Fayad approuvera-t-il l'idée avancée par Abdelatif Labi dans sa lettre préface et selon laquelle la vraie place du poète est en prison. Car, explique Labi, ce faisant, le régime se dénonce lui-même et de la façon la plus éloquente. Où la question restera posée. Et pour lire « Je vis des moments difficiles » d'Asraf Fayad, on s'adressera à la Maison de la Poésie de Rhône-Alpes, 35 rue Ambroise-Croza, 39400 Saint-Martin-d'Air. L'ouvrage coûte 8 euros. Et je vous souhaite, chers éditeurs, que d'ici notre prochain rendez-vous, dans un mois, vous soyez épargnés les moments difficiles.
Voilà une intention qui doit vous aller droit au cœur. Voyons à présent ce que notre amie poète Cécile Guivarch a caché dans sa musette et qu'elle va nous sortir tout à fait cessante.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc Maude des éditions des Lisières m'a confié un très beau livre qui est paru en juin 2019 et qui s'appelle « Ma terre ensemencée ». Donc c'est en fait un livre bilingue, anglais et français, qui a été écrit par Jean Pera Pemberton. Pour la version française, elle a été aidée par Catherine Piron-Pera. C'est une version bilingue très intéressante. Alors pourquoi ce livre m'a particulièrement intéressée, c'est que ce sont des poèmes écrits sur une très longue période, une période qui couvre 1955 à 2017. En fait, l'auteur, elle est née dans une ferme en Angleterre et elle s'est installée en France à l'âge de 25 ans. Et ce livre, Ma terre ensemencée, c'est en fait le témoignage de sa vie à partir de son installation en France. Les tout premiers textes, elle évoque son départ justement vers la France et ce que cela représente d'inconnu pour elle. Ça, c'est vraiment au tout départ. Et après, donc, le livre se déroule avec sa vie, la vie qui passe avec la naissance d'un enfant, mais aussi donc tous ces souvenirs qui font la vie. Ce qui m'intéressait aussi, c'est que on s'aperçoit que les poèmes en fait laissent une trace. Ils montrent comment combien nous sommes fragiles et comment nos traces en fait pourraient bien disparaître. J'aime bien un petit vers, par exemple, qui dit ainsi: l'herbe repousserait rapidement, effaçant nos traces. Donc voilà, ça montre bien que on a pourtant des traces, qu'on vient tous de quelque part, d'un désir. Quelqu'un nous a mis au monde par désir, et nous laisserons aussi des enfants. Mais comme le dit l'auteur, combien d'enfants auront les enfants de nos enfants? Donc c'est vraiment un livre sur la réflexion autour de notre passage sur Terre, de la possibilité que nous aurons ensuite à poursuivre, la trace de nos disparus. Et moi, vraiment, c'est un livre que je recommande. Mode des éditions de Lisière m'a permis de reproduire dans le prochain numéro de Terre à Ciel les poèmes en anglais, en français. Vous pourrez en découvrir quelques-uns, mais je vais vous en lire de suite. Alors, un poème écrit en août 1965. Fougère. Fougère comme aux endroits où j'allais enfant. Un chien aboie. Les trembles sont pareils. Ils bruissent comme la pluie, comme l'eau. Je suppose que la mère de ma mère trouvait des primes verts. Depuis combien de siècles les femmes de ma lignée viennent chercher du réconfort dans les bois? Telle femme s'est enfuie. Son mari ou son amant s'en est allé avec une autre, a eu des enfants. En s'ouvrant, les châtaignes font un bruit sec. J'y trouve du réconfort. Ne trouvant pas le sommeil, je suis montée jusqu'au bois. Un arbre qui pousse, ça vaut un homme. La terre est humaine. Dans l'odeur humide, parmi les feuilles de l'automne, je m'allonge et je m'endors. Voilà un deuxième poème pour la route, donc un poème qui est écrit en septembre 1970. Nous sortons de la maison, mes deux enfants et moi. D'autres se joignent à nous. Pendant que nous marchons le long du chemin, à travers les vergers, jusqu'à atteindre les choux, les lapins et les canards à l'arrière des jardins, et les innombrables chatons cachés sous les voitures, à l'abri des enfants et de leurs câlins, jusqu'à atteindre la route qui s'élargit, la cloche n'a pas encore sonné l'heure qui indiquerait notre retard. Je ne suis plus l'enfant que j'étais. Je reprends maintenant le même chemin jusqu'à la maison vide, comme ma mère sans doute, laver la vaisselle, faire le lit, ranger les vêtements et attendre que les enfants reviennent peupler l'espace de leur avenir. Voilà, donc c'était Ma terre ensemencée de Jean Perra Pemberton aux éditions des Lisières, à découvrir sans plus attendre. Je vous dis à très bientôt, au revoir.
Puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demain. Nulle part où je vis ou meurs, je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier au Wenzelaer, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissait les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être, et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune mais pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? Soldats en ville, et la nuit monte les civils. Remets du rime et la tessile, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin le suivent? Comme des soleils dévolus.
Louis Aragon, est-ce ainsi que les hommes vivent, par Bernard Lavilliers, dont vous aurez sans doute reconnu la voix de fauve. Voilà, il me reste plus qu'à prendre congé de vous, non sans vous avoir mis entre les mains expertes de notre ami poète Patrick Jockel, qui va nous présenter à son tour des coups de cœur. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve bien évidemment dans 15 jours sur la route inconnue.
Eh bien, bonjour pour cette nouvelle saison. Un jeune poète congolais, Youssef Brahn, que j'ai rencontré via Facebook. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est très très performeur sur la scène du slam à Kinshasa, qui a très très envie d'avancer, d'écrire, et il vient de publier aux éditions du Net un petit ouvrage qui s'appelle « Irréconnaissance, poésie noire de la lumière blanche ». Youssef Brahn, donc un de ces jeunes poètes que nous avons plaisir à suivre dans notre petite revue Cairn, puisqu'on l'a publié dans la revue. Donc il habite à Kinshasa, il se produit régulièrement sur les scènes de rap de la capitale du Congo, et on va trouver dans ses poèmes des échos d'Éluard, des échos de Hugo, de Senghor, de René Philombe, beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement, de désir, beaucoup d'Afrique aussi, bien sûr. Bref, c'est un petit recueil comme des premiers pas d'un jeune dans la vie d'homme, comme des premiers poèmes, plein de vitalité, plein d'espoir, plein d'envie, plein de promesses à tenir. Je pense que c'est une voie qui va mûrir avec le temps et que c'est un poète à suivre. Un extrait, un poème qui s'appelle « En noir et noir ». Je sors du noir. D'un noir tout noir, ce noir qui charme, ce noir qui calme, ce noir sans larmes, ce noir sans drame. Je suis noir et tout de moi se passe en noir et noir. Tout noir, noir, plus noir même que le noir, noir de ma peau, noir du soir, noir qui brille dans l'obscur, ce noir plus beau que la nature. Je suis noir et tout de moi se passe en noir et noir. Ce noir blanc comme la neige, ce noir qui me protège, ce noir qui luit, ce noir qui brille dans le noir, où le noir vit près du noir qui noircit, le noir moins noir pour obtenir le noir plus noir. Je suis noir et tout de moi se passe en noir et noir. Le noir beau, plus beau même que mes mots, ce noir luisant, plus que le noir de nos diamants, ce noir symbole de notre richesse, ce noir qui caresse, noir tendresse, noir qui s'en fout que le tendresse, je suis noir et tout de moi se passe en noir et noir. J'aime mon noir noir, ce noir de gloire, ce doux noir qui brille, ce tendre noir qui scintille, ce noir noir qui brille dans le noir. Fier de mon noir noir, fils du noir, je suis noir et tout de moi se passe en noir et noir. Fils du noir et du soleil, ce noir qui nous émerveille, un noir noir, même dans la lumière noire, ce beau noir et doux noir, je suis noir et tout de moi se passe en noir et noir. Noir de la couleur des anges, ce noir qui jamais ne change, ce noir de la couleur de Dieu, noir de ma terre, noir de mes aïeux. Un autre extrait des Irréconnaissances de Youssef Brahn, l'homme. Je suis l'homme qui vit et qui meurt. Je suis l'homme du passé et du futur. Je suis l'homme qui gagne et qui perd. Je suis l'homme de la sécheresse et de la pluie. Je suis homme d'Afrique et de ma mère. Je suis l'homme noir et à la fois l'homme blanc. Je suis l'homme qui parle et qui s'efface. Je suis l'homme qui rit et qui pleure. Je suis l'homme, l'homme d'une autre vie.